Affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ。
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour le numéro 116 de D'étoiles plein les yeux, dans lequel on vous parlera de Santiago Italia, le dernier documentaire de Nanni Moretti, avant d'entendre Flora nous présenter le film Le silence des autres, qui est programmé au festival Reflet du cinéma Le Zola à Villeurbanne, et avant de conclure donc sur les conseils de la semaine.
Non si può immaginare che la sua propria aeronautica va a bombardare il palazzo del governo.
Toda una vida democratica che de golpe se transformava in dittatura.
Scappavano come scappano oggi dall'Africa.
Io sono un rifugiato, sono stato accolto, mi hanno permesso di integrarmi.
Me dijo que esto iba a ser como quien dice imparcial.
Io non sono imparziale.
Donc on vous a laissé un long morceau de la bande-annonce pour vous faire sentir les ambiances diverses et surtout les différentes parties du film. Donc pour présenter rapidement ce nouveau documentaire de Nanni Moretti, donc il traite de l'accession au pouvoir de Pinochet au Chili et la mise en place de sa dictature. Et en particulier, ce sont les militants socialistes ou communistes italiens qui vivaient au Chili qui sont filmés et dont on enregistre les récits. Il raconte donc leur engagement, leur vie pendant la dictature, pardon, leur emprisonnement souvent, et comment l'ambassade de l'Italie leur a sauvé la vie en les envoyant en Italie pendant la dictature. C'est un film, donc, comme je le disais rapidement, en deux temps, basé sur les récits de ces personnes, racontées donc de face caméra, donc le dispositif très brut, où ce qui importe le plus, donc, c'est la parole, le témoignage. Donc, on a une première partie où on parle de l'accession au pouvoir de Pinochet, avec toute la mise en place de sa dictature, et une seconde partie qui traite plus du rôle de l'ambassade italienne pour ces vies-là. Donc, les yeux, aujourd'hui, ce sont ceux de Martin, Arthur et Ellie, et la toile, c'est le dernier film de Nanni Moretti. Pour commencer, peut-être, Ellie.
Oui, bon, alors, mon sentiment sur le film, il est très, très bon. Enfin, ça m'a vraiment... plus touché et ému, et pas ému au sens bête de voilà, je suis ému parce que ce que me disent les gens, ça me touche et ça m'immobilise, mais vraiment c'était une émotion qui faisait réfléchir, quoi. Et c'est dans le tracé du film qui est très fluide, très direct, très clair et efficace, on pourrait dire, mais là dans ma bouche c'est pas un reproche du tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était un film très fort. Ça fait longtemps qu'un documentaire m'avait pas à ce point pris à la fois par l'émotion et la réflexion. Voilà.
Et à quoi il faisait surtout parce qu'effectivement c'est des récits de vie mais à quoi tient l'efficacité du film, parce que moi aussi je l'ai ressenti, et d'un autre côté il est pas du tout pédagogique, enfin je veux dire c'est pas, il est pas didactique dans le sens où c'est pas un documentaire télévisuel où on explique l'accession au pouvoir, comment ça s'est passé, etc. Il y a quelque chose du documentaire de création malgré tout qui garde l'efficacité d'un documentaire didactique, quoi. Vas-y, bon, du coup, Martin, si tu peux enchaîner.
Oui, c'est un film documentaire, donc, mais qui peut décevoir d'un certain côté le spectateur qui va le voir pour avoir un rendu de ce que c'était que la dictature, pour apprendre ce que c'était que la dictature de Pinochet. Moi, c'est ce que j'ai ressenti un peu, mais d'un autre côté il a un grand avantage que j'ai ressenti, c'est que à la fin du film on a vraiment envie d'en savoir plus d'étayer en fait les témoignages qu'on a eu tout au long de ce film par une étude un peu plus approfondie, et on a aussi envie d'approfondir sur les liens internationaux qui ont lié tous les pays occidentaux en particulier avec la dictature de Pinochet en fait.
Et pourquoi il déçoit du coup?
Il déçoit dans le sens où au début du film, surtout le début du film laisse penser qu'il va continuer sur un récit de ce que c'était que la vie sous la dictature de Pinochet, la vie des habitants, les répressions, etc. Mais très vite en fait on passe sur cette deuxième partie qui est beaucoup plus consacrée au lien entre l'Italie et entre l'ambassade de l'Italie et le Chili, et donc on décentre en fait le regard plus vers l'Occident, vers le rôle qu'a pu avoir cette ambassade de l'Italie, et on en apprend beaucoup moins sur la suite de la dictature de Pinochet. On comprend comment s'est fait le coup d'État, mais ça ne va pas beaucoup plus loin dans l'explication de ce que c'était la dictature, et ce n'est pas le but du film.
C'est peut-être là où se situe le regard de Moretti. Enfin, l'originalité du sujet de son film, c'est justement ça, le titre Santiago Italia. Enfin, c'est justement les liens entre les deux qui font... Enfin, je pense, j'imagine... Est-ce que Arthur, tu as quelque chose à dire là-dessus?
Est-ce que ça fait l'originalité du film, en tout cas dans les 20 dernières minutes,
ouais.
En effet, puisqu'on voit toute la mobilisation en Italie dans les années 70, où c'était les années aussi où le parti communiste italien était arrivé au pouvoir, où il y avait une force de création à gauche qui était particulièrement importante, donc c'était un acte fort, et ces dernières minutes sont particulièrement agréable et redonne un peu d'espoir, parce que sinon je trouve que c'est quand même un propos qui est assez dur. Mais après, est-ce que c'est si original? J'avoue que j'ai été un peu déçu, parce que je me disais c'est Nanni Moretti, il va nous faire un documentaire, et je m'attendais à quelque chose peut-être de temps en temps d'un peu plus osé, original, parce que j'aime beaucoup Nanni Moretti. Bon, après quand on arrive à comprendre que ça va être un documentaire en fait quand même dans les formes très classiques, en effet, je trouve que ça fait vraiment l'effet que tu décrivais avec Ellie, mais il faut d'abord quand même passer, pour moi, une petite déception de base, de dire, certes, c'est Moretti, mais ce n'est pas Moretti à sa pleine puissance de frappe, quoi.
Oui, je vois. D'un autre côté, c'est aussi, je comprends complètement, je suis plutôt de ton avis dans l'idée que c'est une forme plutôt classique, mais... ce que j'ai trouvé chouette aussi, et ça on peut étudier le film en objet propre, pas le replacer dans une histoire du documentaire où on aurait pu espérer une forme plus innovante, mais uniquement dans dans ce dévouement de la caméra au récit des personnes qui finalement tissent en eux-mêmes une logique propre, c'est-à-dire que on a l'impression qu'ils se répondent à chaque fois, qu'ils poursuivent les phrases des anciens, qu'il y a une chronologie et une logique, une cohérence dans les récits et dans leur agencement qui rend percutant le documentaire, et d'un autre côté qui fait son intérêt. Enfin, on a très peu d'images d'archives, et ça c'est un choix aussi. On a essentiellement des séquences qui sont basées sur les récits face caméra, et ça en soi c'est un parti pris.
C'est aussi souvent en fait dans ce film ce qui rend le film percutant,
oui.
Avec par exemple il y a une scène choc où une femme nous raconte les tortures qu'elle a subies pendant son enfermement. C'est justement cette technique face caméra qui rend le témoignage si percutant en fait.
Oui, et c'est en fait que le fait que le spectateur doive, tout ce qu'il y a de toute l'époque dont on traite réside dans finalement l'image que les récits font naître dans l'imaginaire du spectateur. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de montré concrètement, ne serait-ce que, enfin, si ce n'est, pardon, la parole et le récit, tu vois. Donc on est obligé de compenser un déficit d'image par notre imagination et donner vie, donner vie à cette époque à partir des récits. Donc il y a un régime de la parole qui est quand même intéressant dans ce documentaire.
C'est ça la puissance documentaire en fait. C'est peut-être pas la puissance d'un film de fiction qui mettrait en scène et qui nous ferait subir un choc par les images, par vraiment une illustration de ce qu'a été l'histoire de ces gens, etc. Mais c'est voilà, comme la matière du film en elle-même, donc ces plans, ces témoignages face caméra, et puis les archives assez rares quand même. Enfin, tout ça, c'est assez dépouillé, et c'est dans le montage et le hors-champ, l'implicite que ça dégage, que d'un coup, il y a comme pas un choc, mais un tremblement, quelque chose qui sourd tout le long du film, et qui relève vraiment d'une force de point de vue et de regard, quoi. On sait que c'est Nanni Moretti qui, voilà, depuis le premier plan, je crois, il regarde, on le voit, ah oui. C'est l'affiche aussi, il regarde Santiago, je crois, depuis un point de vue élevé, il regarde à distance, et il cherche peut-être à comprendre, je sais pas, depuis sa place de Nanni Moretti, qui avait, je ne sais pas, une vingtaine d'années quand tous ces faits se sont passés, depuis l'Italie, et voilà, il dit « je suis pas partial
ouais, ».
Je suis pas impartial, justement, oui, et ça, la force.
Et peut-être pour ajouter sur la question du hors-champ, ce que je trouve particulièrement bien, c'est certes, le documentaire est très avare d'images, mais lorsqu'il en présente, c'est toujours avec une cohérence et avec un sens du récit qui est incroyablement puissant. Par exemple, montrer comment se passe un meeting d'Allende, montrer quand même une ambiance, quelque chose, avec en plus le récit de ces gens qui expliquent à quel point c'était l'espoir, et surtout l'image du palais présidentiel où se trouve ce même personnage bombardé. Moi, moment, ça, c'est quand même quelque chose, déjà c'est impressionnant de base, mais en plus il y a quelque chose comme tu dis, dans le récit qui est fait du film, aussi bien par les personnages que par les rares images. Je trouve que c'est d'une cohérence, et c'est vrai que ça donne une certaine force aux rares moments, en fait, d'explosion d'archives, on va dire.
Après, moi, j'ai peut-être quand même un petit bémol à rajouter.
Ah oui.
C'est sur la fin du film, à partir du moment où il passe complètement, où il décentre justement complètement le regard sur l'Italie. On voit le message arriver.
Est-ce qu'il
le message arrive à la fin. Et c'est un peu gros. Il y va avec des sabots énormes. Et c'est un peu long. Et
moi, je trouve, tu vois, justement, c'est parce que ça arrive à la fin. Et parce que ça arrive, enfin, vraiment, l'explicitation la plus forte, elle est dans le dernier plan où l'homme, il dit mais pourquoi l'Italie, elle en est arrivée là? Et pourquoi ce pays qui a accueilli... Enfin, oui, j'ai trouvé fort parce que c'est un explicite qui nous est pas mis... qui nous est pas lancé au visage tout au long du film. Et qu'on voit... effectivement arrivé, qu'on a le temps de s'approprier, qu'on a le temps de se positionner politiquement par rapport à ça, et ça éclot d'autant mieux, quoi.
Et puis la toute dernière image du film, c'est quand même, je crois, hein, c'est quand même cette fanfare qui... Non, mais alors attends, on termine pas sur cette idée-là, on termine sur la fanfare qui a quelque chose d'immédiat, une beauté immédiate qui, du coup, bon, on s'extrait un peu de ce... À la toute fin, au dernier plan,
oui,
on s'extrait un peu de cette lourdeur du message qui, en soi, est incontestable, hein, mais je veux dire, il fallait qu'il termine là-dessus.
Oui, il pose les choses.
Et on a quand même, malgré tout, cette beauté du partage, parce qu'en fait, finalement, c'est juste ça, hein, l'idée, hein, d'une fanfare qui est enthousiaste et qui enthousiasme tout le monde. Voilà, c'est là-dessus qu'il termine malgré tout. Et donc, du coup, j'ai l'impression quand même qu'il boucle son film par une fulgurance qui est positive. Enfin,
et qui en plus ressemble beaucoup à ce qu'il fait dans d'autres films en plus. Moi, c'est ça aussi, c'est que là, il y a vraiment la genre de positivité où Nanni Moretti dans ses films, c'est il voit qu'il y a des gens qui courent ou un troupeau de prêtres qui passent dans la rue, il trouve ça drôle et il va les filmer et il trouve ça drôle. Donc, je pense, ça m'a fait penser parfois à ça en fait, à la fin. Donc, en effet, c'est une image peut-être plus positive.
Donc, du coup, on le conseille plutôt ce film ?
Oui,
clairement.
On laisse Rémi nous présenter le coup de projecteur de la semaine avec Flora, donc Le silence des autres, un film projeté au festival Le Reflet.
Tout à fait, merci beaucoup Mathilde et bonjour à toi Flora.
Bonjour Rémi. Alors la semaine dernière, dans son entretien avec toi, Olivier Calonnec, le directeur du festival ibérique et latino-américain des Reflets, insistait sur l'importance du documentaire dans la production cinématographique aujourd'hui et particulièrement dans la programmation du festival des Reflets cette année. Il soulignait l'importance du documentaire et du cinéma, plus généralement, comme lien entre les gens. C'est une des caractéristiques du silence des autres, le documentaire donc dont je vais vous parler aujourd'hui, de recréer du lien dans la société espagnole en surmontant la barrière du silence et de l'oubli. Le silence des autres, El silencio de otros en espagnol, est un film documentaire réalisé par Almudena Carracedo et Robert Bahar, sorti en Espagne le 16 novembre 2019 et en France le 13 février 2019. Alors entre 2010 et 2016, les deux réalisateurs ont suivi des victimes du franquisme dans leur combat pour la mémoire et la justice. En Espagne, la loi dite d'amnistie, votée en 1977 lors de la transition démocratique, a permis la libération des prisonniers politiques, mais a surtout empêché que les crimes perpétrés par les franquistes pendant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, ainsi que sous la dictature de Franco de 1939 à 1975, soient poursuivis en justice. Elle a entraîné dans son sillon la dissimulation d'une partie de l'histoire. Les côtés sombres de l'histoire récente espagnole ont donc été peu à peu oubliés et n'apparaissent pas dans les livres, ni dans les programmes scolaires, ni dans le débat public. C'est contre cet endormissement de la mémoire et de la vérité que des associations de victimes élèvent la voix. Ils sont obligés d'aller trouver une juge en Argentine pour s'occuper de leurs témoignages. C'est la parole de ces victimes qu'Almudena Carracedo et Robert Bahar vont chercher et mettre en lumière dans ce film.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos.
Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa, en la fosa.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Lo que pasa, que no se ha destapado parte hasta ahora.
Alors, on vient d'écouter un extrait de la bande-annonce et donc les réalisateurs se fondent dans ce film sur des entretiens avec les victimes du franquisme, Flora.
Oui, c'est ça. Ça commence par Maria Martin, qui nous introduit dans l'histoire. À plus de 80 ans, elle continue de se battre pour exhumer les restes de sa mère de la fosse commune où elle repose. Se mêle à son récit d'autres, de plusieurs autres témoins, parmi eux Soledad Luque, à qui on a volé l'enfant à la naissance pour qu'il soit élevé par des parents plus recommandables et endiguer le communisme, ou alors José María Galante, qui est le troisième protagoniste du documentaire. Il raconte que son bourreau, donc quelqu'un qui l'a torturé pendant la dictature, connu sous le nom de Billy El Niño, n'est pas moins que son voisin d'en face. Tous deux vivent dans une rue qui porte le nom d'un autre tortionnaire franquiste, le général Yagüe. Ce documentaire se construit en alternance sur des entretiens avec les victimes du franquisme, sur des séquences de leur quotidien de combattants pour que la justice soit rendue, et sur des images d'archives, pardon, sur lesquelles se pose une voix off pour resituer le contexte historique. Le spectateur est directement lié aux témoins lors des séquences d'entretien. Cette manière de filmer et de permettre à une personne de raconter son histoire, qui est courante dans les documentaires lorsqu'ils se servent de témoignages, est une façon brute de toucher, d'interpeller celui ou celle qui regarde et qui écoute. L'image est importante, la silhouette du témoin se découpe sur le fond noir, ce qui fait ressortir davantage sa posture droite et son regard déterminé fixé sur l'objectif. À cela s'ajoutent les mots employés par les témoins et les émotions dans leur voix. Ça éveille en plus de la compassion, la colère et l'indignation.
Alors, et comment se construit donc ce documentaire? Comment est-ce que les réalisateurs articulent les entretiens entre eux dans ce film?
Alors, ce documentaire se construit aussi comme un thriller.
Oula.
Oui, nous suivons des personnages récurrents, dont les parcours ressortent par rapport à tous les témoignages qui sont recueillis au cours de ces 6 années d'enquête. Ils confient tout d'abord le nœud de leur histoire, le point de départ qui les a encouragés à se lancer dans le combat pour la justice et la vérité. Puis au fur et à mesure de l'avancée du film, des éléments s'ajoutent à leur récit. On en apprend plus sur leur vie, les traumatismes qu'ils ont vécus, les problèmes auxquels ils se confrontent et les difficultés qu'ils rencontrent encore. Nous suivons leurs victoires et leurs échecs. Leur joie lorsqu'ils apprennent que la juge argentine qui instruit le dossier, Maria Servini, propose de recueillir leurs témoignages par vidéo. Et leur rage quand le gouvernement espagnol, au nom de la loi d'amnistie, interdit que ces témoignages vidéo soient portés depuis l'Espagne. Les voilà donc tous partis en Argentine, et leur bonne humeur mêlée à leur détermination fait repartir le train de leurs paroles. Le thriller est donc non seulement un genre populaire, plutôt facile d'accès et captivant, mais un genre très important en Espagne, en grande expansion depuis la fin des années 90. s'inspirer de cette forme à laquelle les Espagnols sont habitués et qu'ils apprécient, assure à ce film une meilleure réception. C'est en plus une forme universelle qui permet également un accueil favorable à l'étranger.
Bon, et alors du coup, pas trop d'émotions, on n'étouffe pas non plus dans ce film.
Non, ça va, même si les témoignages sont renversants, on n'est pas noyé par ce flot de paroles et d'émotions submergentes. La caméra sait prendre du recul et nous emmener à distance de ce tourbillon. On sort le temps d'un instant des profondeurs de l'intimité des êtres qui témoignent, des profondeurs de la terre de laquelle on sort leurs ancêtres, le fruit du combat d'une vie, et nous gravissons la Sierra de Tormentos pour prendre un peu de hauteur. Car si le cadre se réduit parfois à des prises très rapprochées, centrées sur les entrailles remuées et retournées, les réalisateurs nous permettent aussi de reprendre notre souffle. Ils nous amènent en haut del Torno, dans la vallée de Jerte, au pied du monument El Mirador de la Memoria. Ce monument sont trois hommes et une femme de pierre qui se dressent, le regard pensif ou rivé au sol, qui se dirigent tantôt vers les montagnes ou la vallée en contrebas. Trois hommes et une femme disparus pendant la guerre civile et réapparus juchés sur ces rochers pour se souvenir. Ils sont l'œuvre du sculpteur Francisco Sedenilla Carrasco, dont le grand-père est mort fusillé par les franquistes. Trois hommes et une femme qui, à peine installés là en 2009, ont été de nouveau criblés de balles, preuve que la mémoire peine à se faire une place en Espagne.
Oui, c'est assez difficile à accepter, d'autant plus qu'il a donc été enfoui.
Oui. Ces statues sont là pour aider à se souvenir du passé, pour aider le devoir de mémoire à s'accomplir. C'est aussi et surtout ce que souhaite ce film. Que les plus âgés se souviennent et que les jeunes apprennent. C'est un film qui évoque le passé, mais surtout qui raconte le présent. Les réalisateurs nous montrent non seulement une Espagne qui se bat, mais une Espagne qui résiste, une Espagne qui s'éveille à peine et prend conscience de ce qui se joue. Une Espagne aussi qui prépare son avenir. José María Galante le dit... Estamos peleando por el futuro.
Merci beaucoup Flora, ce film qui s'appelle donc Le silence des autres, qui est sorti récemment en France et qui sera entre autres encore projeté deux fois pour les 35e reflets du cinéma ibérique et latino-américain. Ça sera vendredi et samedi au ciné Toboggan à Décines. Et puis pour en savoir un petit peu plus sur ce festival, n'hésitez pas à retrouver le coup de projecteur que nous lui avions donc consacré la semaine dernière. On reviendra encore rapidement sur un autre film présenté la semaine prochaine.
On passe pour finir au conseil de la semaine. Donc le film dont on a déjà parlé la semaine dernière sera La Flore, un film de 6 heures projeté en deux parties au festival Le Reflet, mais aussi dans les salles, notamment.
Un film de plus de 13 heures
de
projeté
de 13
en 4
heures.
Parties.
Ok, donc
vous en aurez pour votre argent.
Projeté aussi en salle, donc vous pouvez aller le voir au Comédia. Pour en parler rapidement, donc chaque épisode correspond à un genre cinématographique précis, une série B, un mélodrame musical, un film d'espionnage, une revisite d'un vieux film français, etc. Donc ces épisodes ont en commun les mêmes comédiennes et les mêmes personnages dont on comprend à la fin des 13 heures de projection le portrait et les caractéristiques propres. Du côté du patrimoine, ce sera donc à l'Institut Lumière. La rétrospective d'Essica se prolonge avec la projection cette semaine du très culte Voleur de bicyclettes. Et si vous ne savez pas quoi faire dimanche après-midi, c'est l'occasion d'aller revoir les 400 coups de Truffaut à 14h30 à l'Institut Lumière.
Les deux plus beaux enfants de l'histoire du cinéma, c'est quand même incroyable.
L'événement de la semaine, c'est l'ouverture des réservations pour la venue de De Palma à l'Institut Lumière. Les réservations s'ouvrent demain 11h. Il viendra présenter son film Phantom of the Paradise. On termine l'émission avec les conseils de Flavien Poncet des Cinéma Lumière.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du nouveau film de Laszlo Nemes, qui est un cinéaste hongrois. On connaît la grandeur du cinéma hongrois avec des auteurs comme Miklós Jankso ou Bélatar. Laszlo Nemes, c'est ce cinéaste qui avait remporté le Grand Prix au Festival de Cannes avec son premier film, qui était Le Fils de Saul, qui était l'histoire d'un Sonderkommando, ces juifs qui, dans les camps de concentration et d'extermination, étaient contraints d'amener justement leurs confrères juifs à la mort. L'histoire d'un Sonderkommando, donc, qui avait réussi à prendre des photos dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ça, c'était le premier film de Laszlo Nemes. Plusieurs années plus tard, il sort le film dont je vous parle aujourd'hui, qui est Sunset, et qui reprend sa manière de filmer dans le vif du réel, caméra à l'épaule, arrimé à son personnage principal. Et sauf qu'ici, le cadre est totalement différent. On n'est plus à Auschwitz-Birkenau, mais on est dans l'Empire austro-hongrois en 1913, donc avant la Seconde Guerre mondiale, avant même la Première Guerre mondiale. Et c'est un film qui, avec la même force que Le Ruban blanc de Haneke, nous montre comment, avec des petits signes, émerge le nazisme, émerge la haine de l'Europe entre chacun de ces pays, du point de vue d'un personnage, d'une fille, d'un chapelier, qui va découvrir l'origine de sa famille. Vous devinez les choses. Le film est très mystérieux si vous voyez la bande-annonce, mais c'est une vraie expérience de cinéma, au même titre que l'était Le Fils de Saul. Et c'est donc Sunset qui sort en salle le 20 mars.
Ok, soldier. I'm coming out. Ok, soldier. I got no gun and... I'm coming out.
C'était le 116e numéro de D'étoiles plein les yeux avec Élie, Martin, Arthur, Rémi et Flora, avec Arthur et Rémi à la régie. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine où on vous parlera du dernier film de Xavier Dolan.
Calm down.